une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Serial Causeur. Je suis Adrien, votre hôte habituel, et j'ai aujourd'hui tout Springfield avec moi. Bonjour vous tous, Alan de Cinewatch, Stéphane de Sériesiteur sur Twitter, et bien sûr Tom de Small Things. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour parler animation. Alors que les séries cultes en sont à leur 30e saison, mais aussi que d'autres classiques instantanés comme Rick et Morty, BoJack Horseman ou d'autres ont pu voir le jour, il n'est que de bon sens que Serial Causeur s'intéresse à ce genre qu'on a bizarrement assez peu abordé au fil des émissions depuis qu'on a commencé, alors qu'on est franc consommateur. Trois questions vont ponctuer le débat. La première consacrée à la forme des séries, on va s'interroger notamment sur la 2D et la 3D. Ensuite sur le fond avec la question de la subversion. Et enfin, la question plus ouverte de la survie des séries cultes d'animation. Et je vous propose de commencer avec la première question, donc la 2D. Rick et Morty, Gravity Falls, BoJack Horseman, la plupart des nouvelles séries ou des séries rénovées dont on parle beaucoup, comme DuckTales par exemple, n'ont pas fait le choix du passage à la 3D. Étrange quand on voit que le cinéma d'animation, en tout cas occidental, est beaucoup fait de 3D. Alors L'Âge de Glace, Dragon, Spider-Man Génération récemment. Bon, pardonnez-moi de citer que des trucs occidentaux, mais je suis sûr qu'on réparera ça au fil de l'émission, notamment avec Alan. Reste que la question se pose, est-ce que la 2D reste, pour les séries d'animation, la norme? Tom, par exemple.
La norme, je ne sais pas, mais après, je pense que chaque technique a son support. C'est vrai que la 3D, maintenant, au cinéma, c'est la norme, parce qu'il y en a très, très peu en 2D. Même les Français s'y mettent. Bon, voilà, c'est moins beau, évidemment, que les Américains. Mais c'est vrai que sur le petit écran, la 2D reste. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est peut-être technique? C'est peut-être plus long à faire de la 3D, de la bonne 3D. Je vais me contredire tout de suite, parce que, par exemple, Dragon, qui a été fait en série, c'est de la 3D. Bon, c'est pas aussi techniquement parlant parfait que le film, mais c'est de la 3D. Y a plein de dessins animés que personne ne suit parce que c'est sur les chaînes jeunesse comme Gulli, les choses comme ça, qui sont en 3D. Et c'est vrai que techniquement, la 3D en série, c'est rarement beau. La 2D reste, pourquoi? Parce que je pense qu'il doit y avoir un savoir-faire qui... Ou peut-être c'est plus facile de faire des dessins en 2D, peut-être tout simplement, peut-être que ça coûte plus cher de faire de la 3D, je sais pas.
Oui, c'est la question que je me posais, c'était peut-être une question de moyens.
Je pense que c'est une question purement économique. Hein, le côté, là je suis d'accord avec vous, c'est que la 3D, mine de rien, même si on a un savoir-faire, elle est vachement plus chère du coup à faire que la 2D, et ça se voit, la preuve, quand vous citiez Dragon et ou Star Wars, on voit bien que la 3D est réservée aux grosses licences qui ont déjà eu du coup une 3D du moins au cinéma où les mecs veulent mettre du budget. Pour tout ce qui est tout le reste, soit c'est de la 2D, soit tu peux aussi retrouver de la 3D pour les petits dessins animés, mais surtout pour les gamins. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que t'as plein de petites séries comme le truc sur TF1 là, Miss Elius, je sais plus quoi, qui est en 3D, mais sinon voilà, pour moi c'est surtout une grosse affaire de budget. C'est que ça prend quand même beaucoup plus de temps, malgré le savoir-faire, de faire en 3D qu'en 2D, à mon avis.
Après, il y a les techniques d'animation qui sont que, même si c'est de la 2D, il y a quand même un ordinateur derrière. Donc, je pense que c'est niveau gestion des dessins, c'est plus rapide au niveau du calcul d'animer un dessin 2D.
Oui, je pense vraiment que t'as un ordinateur, dans les deux cas, mais je pense que dans le côté 3D, je pense que t'as vraiment le... Je sais pas, je dis une bêtise, hein, mais ça se trouve un graphiste 3D coûte beaucoup plus cher qu'un graphiste 2D, j'en sais rien, mais...
Moi, je trouve qu'il y a une certaine noblesse dans le 2D, parce qu'on a grandi avec des dessins animés faits en 2D, je pense que dans quelques années, le sentiment sera peut-être inversé, hein, mais je trouve qu'il y a une certaine noblesse, et moi, c'est pour ça que je trouve que les gens encore ont dans la 2D quelque chose d'assez nostalgique et d'une certaine beauté, une simplicité du dessin, et je pense que c'est aussi ce qui nous... Enfin, moi, personnellement, je sais que ça me plaît. Donc, c'est pour ça aussi que je me tourne plus vers ces œuvres-là que les autres en 3D, où, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Hein,
et donc, on excuse mieux le dessin mal dessiné en 2D qu'en 3D.
La 3D LED est moins LED que la 2D.
C'est plus LED, c'est plus LED.
Plus LED, pardon, oui, absolument.
Non, mais, et puis c'est surtout que, c'est tout bête, mais la 3D, est amenée à mal vieillir, dans le sens que, les techniques d'animation, et vous disiez Dragon, qui était quand même, on voit bien la différence entre les films et la série, c'est que la 3D vieillit vachement moins bien, et tu regardes une série 3D de, je sais pas, moi, d'il y a 10 ans, elle est quasiment irregardable, alors que tu peux toujours regarder le premier film des Simpsons, quoi.
Mais,
tu regardes Toy Story 1, c'est vrai que là, tu te dis, ouh, que
ouais, des jeux. Les Shrek et tout ça. Ouais, c'est clair.
Et même aujourd'hui, hein, on parlait de Star Wars Rebels. C'est ouais. juste ignoble. Heureusement qu'il y avait une très bonne histoire et des bons personnages, parce que moi, j'ai eu énormément de mal quand même à me lancer, et alors que la série, ouais. elle est pas si vieille que ça, quoi.
Oui, il y avait des soucis de précision, surtout, avec Star Wars Rebels. Je me souviens très bien quand j'avais été voir le premier épisode avec les poils des Wookiees, qui étaient des espèces de magma sur leur tête.
Mais ça s'est affiné au fil du temps, quand même, hein, parce que dans la dernière saison, dans la saison 4, le graphisme était plus fin, je trouve. Mais là, tu regardes Star Wars Resistance aujourd'hui, c'est juste, moi, je trouvais ça ignoble, quoi. À regarder, je trouve ça ignoble, hein, mais.
Après, voilà. Ouais, moi, je pense que c'est parce que, comme c'est évidemment, ça s'adresse quand même beaucoup plus aux enfants. Et je pense que Rebelle, plus ça a monté, plus ça a gagné en maturité, et plus les effets se sont améliorés. Parce que ils essayent d'attirer un public plus adulte qui a un œil un peu plus, on va dire, plus regardant que les gamins au final. Voilà, enfin, honnêtement, je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté public. Hein, la 2D est assez intergénérationnelle, alors que la 3D touche quand même. Enfin, les séries qui utilisent la 3D sont quand même un public beaucoup plus jeune.
Hein. Mais non, mais quand tu t'attaques à une série Star Wars, tu sais bien que tu vas pas attirer le gosse de 6 ans. Tu vas aussi attirer.
Tu vas attirer. Ça dépend.
Non, mais tu vas attirer forcément le mec de 40 ans qui va vouloir.
Ouais, mais ils s'en branlent.
C'est les deux publics, hein. D'accord.
Ils savent qu'ils vont t'attirer, mais c'est pas toi. L'intérêt de Star Wars Rebels comme Résistance, c'est vraiment d'amener le gamin à intégrer l'univers Star Wars. Toi, tu vas aller regarder parce que t'es fan de Star Wars, mais c'est pas la cible, t'es pas la cible de Disney. Toi, tu vas être la cible de Disney pour les films.
Attention,
pour les séries live.
Dis pas ça parce que moi, je suis la cible Disney pour le coup, hein, parce que je regarde
comme tout le monde. On est tous vendus à Disney.
Non, mais par rapport au produit, ça, je veux dire, ce produit-là particulièrement a une cible bien précise qui est pas nous, quoi.
D'accord, donc la 3D, ce serait peut-être c'est réservé, on a l'impression, soit au cinéma, soit à ce qui pourrait attirer les gamins quelque part, et par ailleurs il y a aussi cette problématique du budget qui revient. Ouais. Oui, et puis je trouvais ça intéressant ce que tu disais, Alan, sur effectivement je trouve ça très vrai sur l'aspect que la 2D est plus intemporelle, c'est-à-dire que à part exception, si tu regardes un dessin animé en 2D aujourd'hui, comme par exemple les premiers, hein, comme Blanche-Neige ou ce genre de choses, c'est moins choquant que de regarder un machin qui a, je sais pas, 15 ans, comme Shrek par exemple, qui est en 3D. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant à ce niveau-là de se rendre compte que la 2D ne vieillit pas.
Bah non, c'est du dessin. Le dessin ne...
Bah, ça vieillit quand même, parce que tu vois que les techniques sont quand même en 2D.
Oui, ça s'affine, mais ça devient jamais choquant, j'ai l'impression.
Ça s'affine, mais même au niveau de l'animation, tu vois Blanche-Neige, les mouvements sont très très fluides. Alors que tu vois, comme je sais pas, Cusco, la 2D, mais ça va à 100 à l'heure. Tu dois
absolument.
T'as moins de dessins à la seconde. Enfin, peut-être que techniquement j'ai faux, mais.
Et puis la 2D à ce côté où en fait tu peux quand c'est mal fait, tu peux accuser, on va dire, le dessinateur, alors que la 3D, quoique même si c'est très bien fait, voilà, on parlait de Shrek par exemple pour les films, ça finira quand même par mal vieillir. Prendre un exemple du coup de Dragon Ball Super, justement, qui a été beaucoup pointé du doigt parce que d'un épisode sur l'autre. En fonction de qui dessinait l'épisode, c'était abominable comme ça pouvait être super beau. Enfin, t'avais vraiment et la série a beaucoup été pointée du doigt parce que justement il y a eu vraiment des épisodes en bande de scie où d'un coup sur l'autre tu disais mais qui a dessiné ça, quoi, mon gamin, enfin un stagiaire. Ouais.
Et la bonne transition justement avec Dragon Ball Super, c'est que c'est comme par exemple Futurama, ce sont des dessins animés qui ont qui utilisent les deux, enfin 3D et 2D pour certaines séquences. Et tu vois la différence. Pour Futurama, ça va, c'est genre des petits mouvements dans l'espace ou alors le vaisseau qui bouge, et tu vois qu'il y a une 3D qui sert un peu la chose. Alors je sais pas si c'était des tests ou techniquement ils se sont dit ça sera plus facile à faire en mouvement, je sais pas, mais voilà, il y a des dessins animés comme ça qui utilisent les deux types de dessins. Les Simpsons ont fait un épisode en 3D je crois que ça remonte à plus de 20 ans, où Homer était dans le monde réel et il était fait en image de synthèse. Et si tu le voyais maintenant, tu rirais, quoi, parce que tu dis, ah, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer? À l'époque, c'était l'avancée, mais tu regarderais ça maintenant, tu dis, ok, qu'est-ce qui est avancé, quoi? C'est même, c'est de la nostalgie, c'est même plus de l'avancée, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez compris, mais moi, je me suis
compris. Oui, tout à fait. Je vous propose de parler à présent de fond, et alors, je vais prononcer une phrase, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, j'en connais un qui va sauter au plafond, au moins. Les dessins animés, c'est pour les enfants.
Ouais, Stéphane est plus près du plafond que nous, donc
ça vous plaît pas. Alors, non. Cette phrase qui inspire, voilà, une colère incontrôlable chez Stéphane, qui se pense à se retient de toutes ses forces de quitter l'enregistrement, est pourtant encore prononcée pas mal par des gens qui voient le média d'animation comme résolument immature. Pourtant, un coup d'œil aux séries longtemps survivantes et même quelques-unes récentes qui sortent du lot, j'ai cité Rick et Morty tout à l'heure, et BoJack Horseman permet de percevoir un portrait différent. L'idée d'une animation, notamment en série, mais ça vaut aussi parfois pour le cinéma, qui peut être une animation de la subversion, de l'outrance, de la satire piquante. Mais est-ce que pour autant, dans le domaine de l'animation, est-ce qu'il faut toujours subvertir pour plaire, pour survivre ou pour être universel?
Ça, c'est la question.
Non, mais c'est des questions, mais je sais que tu cherches à nous titiller, mais moi je répondrai à non, mais ça dépend et
oui, non, mais bien sûr, il y a pas de question toute faite, hein.
Mais
il y a pas de réponse toute faite, bien sûr.
Alors c'est vrai que on parle beaucoup, voire beaucoup plus que des séries dites subversives, celles qui essayent de critiquer beaucoup de manière ostensible et après l'animation, c'est pas que ça, quoi. Il y a toute une. Tu me dis, c'est l'animation, c'est... enfin les dessins animés, c'est pour les enfants. On me l'a encore dit il y a 15 jours quand je regardais un dessin animé un samedi matin.
Non mais voilà. c'est vrai que la première cible, ce sont les enfants.
Oui.
Tu vas pas me dire que le parrain, la cible, c'est les enfants, par exemple.
Non, mais j'espère pas. Mais voilà, non, mais
c'est, chaque, non, mais c'est que chaque truc. BoJack Horseman, c'est pas les enfants, par exemple.
Mais il y a des dessins animés qui ne sont pas pour les enfants aussi. C'est
après,
juste
oui,
ça.
Mais alors pourquoi tu fais en dessin animé, tu vois, par exemple.
Parce que le dessin animé permet beaucoup plus de choses, justement, dans la subversion. Tu accepteras beaucoup plus, finalement, un langage mais horrible de la part d'un Cartman que d'une personne en live. C'est la le dessin animé permet en fait finalement beaucoup plus de liberté parce que par ce prisme-là finalement tu pardonnes et tu acceptes beaucoup plus d'horreur ou qu'on te dise des choses.
Ouais. Mais il y a un aspect régressif, quoi.
C'est réducteur parce que moi je peux te citer plein de séries qui ne sont pas, absolument pas subversives où les gens ils se permettent énormément de choses et t'as des qui sont tout aussi vitales, quoi. Tu par exemple t'as Star vs Forces of Evil. Eh ben c'est l'une des premières séries de Disney Channel, Disney XD, oui, ou Channel, je sais plus à l'époque sur laquelle c'était diffusé, où c'est qu'il y a le premier baiser entre deux hommes dans un dessin animé, quoi. Et puis ça s'adresse à des enfants. C'est pour montrer aussi certains trucs, et c'est pas le truc le plus subversif qui soit. Ils ont même pas fait juste une histoire là-dessus, quoi. Dans le fond, il y a deux personnes qui s'embrassent, ce sont deux hommes, voilà.
Pas vocation d'être subversif aussi.
Ah non, mais c'est pour ça. Mais c'est très réducteur aussi de dire que ben l'animation ça permet de
enfin si ça la permet plus de choses.
Si, justement.
Toutes les séries animation ne sont pas subversives et t'as des séries live qui sont plus subversives. Mais l'animation en règle générale te permet plus de choses que t'ailles dans la subversion ou pas.
Enfin moi oui, même d'un point de vue visuel dans le South Park des débuts ça c'était évident pour moi.
Tu ne verras jamais les Simpsons en live parce que tu pourras jamais voir des mecs jaunes.
Ouais je sais pas si c'est le meilleur exemple.
Regardez la parodie porno vous verrez.
Oui mais... moi je pense plutôt à tous les exemples qu'on peut avoir par exemple bon c'est toujours les mêmes séries hein mais dans South Park par exemple tous les moments un peu dégueulasses des premières saisons c'est impensable de voir ça dans un vrai film, enfin ce serait juste pas regardable quoi. Donc c'est vrai que la série d'un point de vue subversion, l'animation permet plus de choses. Pareil. Oui, c'est ça.
Quand tu fais ça,
ça serait pas drôle,
animé,
ça ferait pas rire.
Quand tu fais ça en dessin animé, ah, si ça peut faire rire, mais c'est pas pareil parce que là c'est en plus t'as l'aspect dessin animé, tu dis c'est pour, en plus c'est un aspect régressif en gros. Donc
oui,
tu peux dire petit caca si c'est un petit, tu fais une petite merde avec deux yeux qui rigolent, c'est régressif donc ça te fait rire. Tu fais une vraie merde.
Oui, c'est
avec
ça. Et puis, il y a aussi le côté, il y a aussi l'absurdité, parce que je pense qu'en nous, on a quand même ancré, parce qu'on a vu ça quand on était gamin, tout simplement, c'est les premières choses qu'on a vues. Le fait que le dessin animé, voilà, c'est, les enfants ont été, en tout cas, la première cible. Et je pense que ça, c'est ancré en nous, et que le fait de voir un dessin animé dire des vulgarités, des trucs de subversion, même si nous, on sait bien que les dessins animés, c'est pas que pour les enfants, quelque part ça fait quelque chose dans notre esprit quoi.
Je dois être particulier parce que c'est pas du tout ce que je cherche hein, dans les séries
oui,
animées
sûr,
quoi
ouais.
C'est ça et d'ailleurs j'ai fait une liste de tout ce que je regarde à plus ou moins tout ce que je regarde et les séries subversives j'en ai quasiment pas quoi définies comme telles et encore je pourrais mettre Big Mouth de Netflix dedans mais bon parce que c'est quand même la plus trash que je dois regarder mais c'est tout quoi. Et les autres c'est pas pour autant qu'elles me disent rien sur le monde, c'est pas pour autant qu'elles sont proposent pas des
oui,
choses intéressantes
sûr,
et qu'elles
sont absolument cachées. Absolument. Oui,
mais c'est je sais pas, ça. C'est moi personnellement la subversion c'est vraiment pas ce que je cherche alors c'est pour ça on parlait des Simpsons de South Park qu'on risque de mentionner encore un paquet de fois ça. mais Mais moi, ça
BoJack, c'est
American Dad et les Griffins et tout ça, moi, ça me fait pas rêver, quoi. Ça me fait vraiment pas rêver.
Mais tu regardes BoJack, c'est subversif, non?
Ben, moi, je la vois pas comme une série subversive tant que ça, quoi.
Non pas du tout. C'est subversif, c'est juste adulte, en fait.
C'est juste des thèmes adultes traités de manière adulte, quoi.
Après, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, t'as pas besoin de subversion, mais par contre, les séries animées se sont de plus en plus, ont gagné de plus en plus en maturité et parlent de plus en plus aux adultes. D'une part, parce que, les enfants que nous étions, maintenant, on continue à regarder des séries animées. Là où nos parents, moi je me souviens que mon père ne comprenait pas pourquoi je regardais les Simpsons quand j'étais gamin, il comprenait pas pourquoi je regardais un dessin animé. Tu veux, maintenant l'idée c'est aussi de sortir un peu de ce carcan-là, de se dire justement le dessin animé c'est pour les gamins. Et je pense que c'est aussi ce que beaucoup de séries animées, subversives ou pas, cherchent aussi à faire, c'est maintenant parler aussi aux adultes, tout simplement.
Oui, à ouvrir le public,
c'est ça.
C'est comme l'histoire de 3D, en fait. Il y a un basculement générationnel qui risque de se faire. Et dans quelques années, je pense que nous, quand on sera plus vieux, on dira pas aux enfants, mais pourquoi tu regardes des dessins animés encore en tournage? Parce que nous, on en regardera encore. Très
bien. Voilà. Donc, Tom, a quelque chose à ajouter sur la question?
Non, en fait, faudrait prendre la question à l'envers. C'est pourquoi on a fait des dessins animés que pour les enfants?
Et puis, c'est pareil, il y en a pas que pour les enfants.
Je me demande si ça existe.
Stéphane, à part la question, c'est pourquoi pour les enfants, on a fait des dessins animés, tu vois.
Franchement, Gravity Falls, c'était pour les enfants, mais il y avait un double, voire triple lecture aussi. Star vs. The Forces Evil, c'est la même chose. Weber Bears, c'est la même chose.
Je sais pas si c'est des degrés de lecture. Hein. Gravity Falls, c'était juste très bien écrit et c'était pas nié, c'était pas cucu, quoi, tu vois.
Non, mais il y a quand même un truc un peu plus adulte derrière, un message que les enfants ne doivent pas forcément comprendre de prime abord, mais
moi c'est pas ce degré là que j'ai pris hein, quand je le regardais, donc tu vois.
Il y a des séries qui arrivent à faire les deux, hein. Bob l'éponge arrive à faire les deux, mais c'est vrai que si je te citais TF1 et Gulli, c'est tout simplement parce que je te cite les chaînes de la TNT qui sont accessibles à tout le monde.
Ok, d'accord. Je suis perdu parce que moi j'ai le câble, alors je regarde tout sauf celle-là.
Excuse-moi. Les films de super-héros, voilà, les gosses peuvent les regarder, les adultes aussi. Ils verront peut-être pas la même histoire, mais voilà. Il y a une sorte de degré de légèreté quand t'écris une histoire qui doit être accessible à tout le monde. À quel moment une histoire est non accessible aux adultes, c'est pas, c'est compliqué, je trouve.
Je vais parler à la fibre nostalgique, mais vous vous souvenez des séries sur France 3, là, les séries DC de Bruce Timm, là, avec les Batman, Superman, Justice League et les X-Men.
Ouais, ça pour le coup, c'était carrément universel, hein.
Oui, mais est-ce que c'était vraiment pour, des enfants? Enfin, des ados. Je sais pas. Moi, je les ai tous regardés, mais après, dans le fond, il y a même des épisodes qui sont pas forcément regardable.
En tout cas, c'était accessible. Accessible aux ados, en tout cas.
Mais en fait, je pense que c'est... Alors ça, c'est... Je vais te faire mon vieux réac. Mais je pense que à l'époque, on avait des séries qui déjà nous prenaient pas par la main. Les Batman, tu vois, moi, justement, la série animée Batman des années 90, c'était une série géniale que je trouvais géniale étant gamin, que je trouve toujours géniale maintenant. Et pourtant, parce que tout simplement, comme je disais par Tom Seller, c'est qu'elle était très bien écrite. Et puis qu'elle ne te cachait pas ce qu'elle avait à te cacher. Enfin, je voyais, tu sais, quand ma petite sœur, elle a commencé à regarder des dessins animés, on a 7 ans d'écart. Bah, ça, c'est bête, hein, mais les dessins animés qu'elle regardait déjà, elle, je trouvais qu'ils avaient vachement été édulcorés, aseptisés. Et c'est là où je me souviens encore, même, tu vois, prenons les Tortues Ninja, qu'on connu énormément de versions de dessins animés différents à travers le temps. Mais à notre époque, les Tortues Ninja d'origine qu'on a connu étant gamin, ils étaient vachement sombres. Même le générique était assez, dans le style, était un peu assez sombre. Ouais. Et pourtant, je pense qu'il y a aussi ce côté, mais ça c'est plus général, tu peux faire ça dans les films, tu peux faire ça, c'est en règle générale la société. Il y a une certaine censure qui s'est installée et une certaine, on va dire, une censure, c'est que maintenant tu prends les gamins pour des cons, en fait, au final.
C'est tu penses qu'il y a eu un glissement, qu'il y a eu vraiment un glissement comme ça?
Ah ouais, parce que autant les séries, les dessins animés pour ados, Stéphane le disait tout à l'heure, Big Moons, ça dit des trucs et ça retrouve un petit peu pas autant qu'on avait passé quand on était gamin. Mais il y a un décalage entre les dessins animés vraiment pour gamins, pour moins de 10 ans et pour après 10 ans. Je pense qu'il y a, vraiment un basculement, alors que les nôtres étaient peut-être moins ciblés, et tu pouvais les apprécier autant à 7 ans qu'à 15 ans, que même à 30 ans. Ouais.
D'accord, ok, très bien.
Et la question, finalement, quand tu cites Rick and Morty, évidemment, les gosses regarderont, comprendront.
Tu penses que les gosses regarderont Rick et Morty?
Rick et Morty, je suis pas sûr.
Hein. C'est vachement trash. Non, je suis pas d'accord.
Ils comprendront pas tout, parce que là, pour le coup, l'écriture, l'humour et tout, c'est 100% adulte. Donc,
et vous me laissiez finir ma phrase.
Ouais, vas-y.
Vous auriez eu raison de dire ça.
Bah oui, parce que quand même, c'est même visuellement...
C'est comme Archer, tu peux pas regarder Archer quand t'es gamin.
Ouais.
Archer, quel est l'intérêt de le faire en dessin animé, par exemple, ça?
Bah, non, mais là, pour le coup, il y a pas particulièrement d'intérêt à faire un dessin animé, à part tout simplement.
Pourquoi? Il peut lui faire n'importe quoi, sans que le mettre l'acteur en danger avec toutes les cascades qu'il doit faire.
Et puis, t'as un côté.
Ça fait plus peur à personne aujourd'hui, ça,
t'as un côté ni queue ni tête, parce que déjà, t'as du cul trash, t'as, d'un coup, le mec peut être dans l'espace, enfin, t'as un truc un petit peu quand même what the fuck.
Oui, on s'autorise plus de choses en animation, ça c'est sûr.
Oui, c'est ça, toujours. Enfin, c'est toujours le même principe, c'est que l'animation autorise plus de choses.
Bon, bah, je vous propose de passer à la dernière question.
Non.
Sur la question des séries cultes. Alors, c'est la question préférée de Stéphane, hein, je vous préviens tout de suite. Donc, effectivement, on parlait tout à l'heure des séries qui survivent. Et certaines, en effet, on peut par exemple penser aux Simpsons, où en soi un nombre d'épisodes absolument considérable. Alors, évidemment, ces séries ont connu des évolutions avec le temps. Je pense que personne peut dire qu'Homer ressemble visuellement à celui qu'il était il y a 30 ans, ou que la subversion de South Park est toujours aussi outrancière. La question, c'est est-ce que ces séries se sont assagies avec le temps, et plus simplement, et en fait ça dépasse même le seul cadre de l'animation, est-ce que la longévité des séries en fait forcément des séries mortes vivantes qu'on finit par regarder par habitude plutôt que par affection? Alan.
Alors là, il y a deux questions. Alors la première... Oui, alors du coup déjà la première, non, je pense pas qu'elle soit assagie. Je pense surtout qu'il y a énormément de concurrents, beaucoup plus de concurrence, et qui était beaucoup plus trash. Finalement, les Simpsons, ça te paraissait subversif quand il n'y avait pas encore South Park.
Ouais,
ensuite, il y a South Park, etc. Donc c'est totalement par rapport à la concurrence, parce que pour moi l'humour des Simpsons, il a pas changé. C'est juste que déjà il s'est inscrit dans le temps. Et effectivement, bah tu pourras toujours dire que les premières saisons étaient meilleures, mais peut-être parce que aussi voilà, il y avait pas autant de concurrence et de choix que t'avais maintenant. Moi je revois encore des récents des Simpsons qui me font toujours marrer, enfin après morte vivante, je suis pas d'accord non plus. Je pense que pour le coup voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais là où je pourrais te donner raison, c'est dans le sens que tu t'accroches à ces séries mine de rien aussi par habitude. Moi, les Simpsons, elles ont 30 ans.
Moi aussi, c'est pareil. C'est pour ça que je suis encore aux Simpsons.
Le jour où ça s'arrête, ça va me faire un truc.
Pourtant,
tu peux te dire, ça a un peu vieilli. Parce que regarde, quand Matt Groening, justement, a essayé de s'actualiser un petit peu et faire des enchantés, eh ben, ça a pas pris. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, pour moi, ça a pas pris du tout. Parce que déjà d'une, c'était un humour assez vieillot par rapport à tout ce que justement toute la concurrence que tu peux avoir.
Oui, c'était plus simple peut-être des entreprises.
Oui, c'était plus vraiment côté gentillesse, c'était un Simpson Light.
Les Simpsons, tu les as déjà,
ils sont intouchables. On a bien vu quand les Griffin au début ils ont commencé, ils étaient un peu dans ce style-là, ils ont dû un peu plus se démarquer parce que justement tout le monde disait ouais mais vous faites comme les Simpsons. South Park, eux se sont totalement,
ils ont fait autre chose totalement dès le début.
Mais, encore aujourd'hui, il y a vraiment, je pense, de la place encore pour ces séries-là. Ces séries-là, pour moi, s'arrêteront le jour où elles auront vraiment plus rien à dire. Les Simpsons, ça reste je pense que ça arrêteront le jour où Matt Groening en aura juste un moment donné marre et qu'il arrêtera les trucs.
Oui, il veut juste mourir,
Matt Groening ne fait plus grand chose sur les Simpsons.
Oui, c'est ça. Donc en plus, regarde South Park, ils sont encore extrêmement pertinents dans ce qu'ils racontent.
Ah ils en font un gag, hein. Maintenant, à chaque fin d'épisode, il y a un hashtag avec écrit cancel South Park. Donc oui, ils en ont fait vraiment un gag carrément. Il est temps que ça s'arrête quoi. Ouais.
Non mais genre à chaque fois, tu peux être face les South Park, c'est encore une des séries qui raconte le mieux l'actualité.
Je suis d'accord avec
l'animation.
Ça.
Donc. Non, pour moi, il y a vraiment toujours la place. Mais en fait, c'est comme une vraie série. C'est le jour où ils auront plus rien à raconter. Mais ça, tu peux prendre ça pour des séries comme NCIS, comme d'ailleurs Supernatural qui a annoncé sa fin. Enfin, je veux dire, tout simplement, c'est quand le jour où les scénaristes ils se diront bon bah là, on a vraiment plus d'idées, on a tout exploité. Après, ce qui est bien, c'est comme c'est des séries qui mine de rien réagissent toujours un peu à l'actu. Bah comme l'actu, il y a toujours un nouveau truc. ça peut aussi jouer là-dessus.
Ouais, donc, c'est ça. Mais il y a beaucoup de séries live qui peuvent durer 30 saisons comme ça. Moi, j'en connais pas beaucoup. Peut-être que j'y connais pas assez, mais.
Regarde, Supernatural, elle dure quand même 15 saisons.
En ce moment, la plus vieille, c'est New York Unité Spéciale, SVU, la Special Victim Unit, qui a 21
saisons. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, d'accord.
Non, t'as les séries live. Après, les séries live, encore, c'est là où tu t'arrêtes une série live, c'est aussi par rapport aux acteurs. C'est que bah peut-être comme on dit t'arrives plus à renouveler les acteurs parce que tu t'attaches aux acteurs, alors que c'est devenu un gag chez les Simpsons, c'est qu'ils vieillissent jamais, c'est l'animation. Ouais. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de l'animation, c'est qu'en fait au final tu peux vraiment les user jusqu'à la corde.
Je vous rappelle quand même que c'est des acteurs qui sont, enfin c'est des personnages qui sont doublés, donc si les acteurs y crèvent tous à un moment donné ils risquent d'avoir
South Park il y a eu des changements considérables, même pour le
South Park a déjà changé, Simpson a des doubleurs qui ont aussi changé petit à petit. T'as même d'ailleurs, et après c'est aussi un point fort pour moi je trouve des Simpsons, c'est que pour certains personnages la mort de leur doubleur a fait que les personnages ont aussi disparu de la série.
C'est
très sympa comme idée. South Park, c'est pour le chef, c'était un autre problème, mais
absolument.
C'était pas un problème de mort.
C'était un départ de série.
C'était un peu plus glauque. Mais voilà, donc je pense qu'une série animée, tu peux encore survivre au doubleur plus simplement que série live, bien sûr. Après, c'est une habitude à prendre, mais je pense que ça survit si tu apprends, enfin si derrière t'es au courant du truc. Je veux dire dans le sens que je peux pardonner un changement de doubleur de Homer Simpson parce que le mec est mort. Je pardonnerais vachement moins un changement de doubleur parce que le mec finalement ils ont décidé finalement de plus le payer, de lui dire soit t'es bénévole soit tu dégages. Enfin,
oui, c'est sûr
qu'il y a des histoires aussi qui est derrière, mais je veux dire en soi globalement si t'as une vraie explication du fait que le personnage change de doublage, je pense que c'est pas un truc gênant quoi.
D'accord. Tom.
Mais dans ce genre de série, je trouve que c'est pas tant la série qui devient culte, c'est plutôt les personnages. Que les Simpsons, qu'est-ce qu'on va retenir plus tard, ce sera plutôt les personnages vraiment voilà, c'est ils sont devenus iconiques.
Oui, c'est moins des histoires qu'on retient que des personnages, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, et puis surtout c'est très longtemps quoi,
c'est des icônes de la pop culture hein au final hein. C'est juste ça. Hein.
Ouais, et à l'inverse, des séries cultes animées qui ont pas duré longtemps, il y en a pas beaucoup, enfin là oui. Daria, je sais pas si ça a duré longtemps.
Si, non, pas beaucoup, mais c'est culte.
Bah, culte, après, bon, voilà, c'est un mot...
Je t'aurais dit DuckTales, mais ça a repris, donc...
Oui, mais d'ailleurs... par exemple, il y a Young Justice aussi, qui a été adoré et célébré pendant 2 ans, qui est revenu là pour la troisième saison sur la plateforme DC.
Batman, TAS, oui, c'est culte, et ça a pas duré...
Quatre saisons, pas énorme. Ouais,
après, tu vois, Rick and Morty, ça durera pas des années, je pense pas.
Ils ont du mal à faire une.
Bon, à chaque fois, il y a quasiment zéro déchet. Donc, je pense qu'ils comprendront assez vite que s'ils arrivent pas à faire une saison parfaite, ils arrêteront, quoi. Mais je pense pas que ça durera 10 saisons. Ça durera peut-être, mais on s'en lassera, quoi. Tu
vois. Parce que je pense que c'est des séries qui sont pour le coup hyper indépendantes de leur auteur.
Ouais.
Le jour où l'auteur, il a plus d'idées, il arrête, hein.
Surtout quand on fait il y a 10 épisodes.
Ouais.
Donc tu vois, c'est très peu, quoi. Quand tu vois que les Simpsons, ils sont obligés d'en faire 25, 26, ils produisent super en avance, là, Rick and Morty, non. Après, je sais pas pour les autres.
Je trouve que c'est une certaine tendance en ce moment. Je trouve que les séries animées, alors déjà ça prend du temps pour aller faire et elles sont annulées assez vite. Gravity Falls 2 saisons, Star c'est 4, Avatar il y en avait eu 3, The Legend of Korra il y en a eu que 4, avec des très petits nombres d'épisodes hein, c'est pareil. The Dragon Prince là qui est diffusé sur Netflix, les saisons elles font 9 épisodes, enfin je trouve qu'ils font en sorte de réduire et je pense pas qu'elles s'éternisent beaucoup plus longtemps que ça quoi.
Parce qu'en fait, mine de rien, tu te rends compte qu'elles sont de plus en plus traitées comme de vraies séries. Enfin, de vraies séries. J'entends ce que je dis, mais.
Séries
live, en fait. Enfin, voilà, non, mais je veux dire, voilà. Elles sont de
plus en plus. Non, mais tu t'expliqueras avec les auditeurs, hein.
Non, mais dans le traitement, tu sens qu'il y a vraiment maintenant par rapport aux producteurs, il y a vraiment une logique de créer de vraies séries avec des vraies histoires et que
si ça marche pas,
donc, que alors les Simpsons, enfin que ce soit les Simpsons, que ce soit Mac and Dad, etc. C'était surtout une logique de de remplir la case. Enfin, tu vois, il y a des il y avait des cases à remplir. Alors que BoJack Horseman n'a pas été, par exemple, créé pour remplir une case. A été créé comme un vrai produit en soi. Donc c'est aussi dans le, je pense, dans la fabrication, dans l'idée d'origine de pourquoi on fait cette série-là, qui aussi a beaucoup changé.
Que ça soit sur Netflix ou ailleurs, Netflix peut mettre toute une saison d'un coup. C'est pas un long film, la saison animée.
Que veux-tu dire?
C'est pas contre la série. Enfin, ça change rien pour une série animée, qu'elle soit d'un coup ou pas, quoi.
Ah oui,
enfin,
non.
C'est juste, c'est pas un argument.
Un épisode de la semaine ou un binge watch, c'est la même chose, hein.
Ouais, ouais, niveau production, niveau compréhension, bah, narration, ça sera.
Bah, ouais. Enfin, il faut quand même se dire que sur Disney XD, enfin, les saisons sont pas les trucs les plus réguliers qui soient, quoi.
Bah, Gravity Falls, c'était ça, la dernière saison.
Voilà. La saison 2, elle a duré, sur 2 ans.
Ouais, c'était du flux tendu. Dès qu'un épisode était prêt, ils le diffusaient et après ils attendaient, quoi.
Ouais, voilà.
Mais d'un côté, après, de l'autre, t'as des webisodes qui sont faits régulièrement, comme pour Rick and Morty, qui sont techniquement autant aboutis, il peut te sortir ça comme ça. Donc, c'est que là, c'est, comme dit Alan, ça dépend vraiment des auteurs. Tout le monde pourrait en faire des épisodes, mais là, les auteurs se sont dit, non, c'est nous, et on fait notre truc à notre sauce dans notre coin. Non, après, je sais pas si pour BoJack, combien il y a d'épisodes par saison, mais...
Quelque chose comme 12, 13, non? 12.
Parce que F for Family, je crois qu'il y en a 8 ou 10, donc c'est très peu, alors techniquement, c'est pas non plus un truc énorme, quoi.
Avec un morceau de vingtaine,
bah, c'est comme les Simpsons, quoi, tu vois, c'est le même style. Bah, c'est pas que c'est moche, mais c'est basique, quoi. Je ne sais pas quoi dire.
Après, moi, du coup, là, bah, non, mais si on a fini le sujet, j'aimerais bien juste glisser une petite aparté.
Oui, bien
sûr.
Sur
Netflix, parce que, alors, je trouve que, en termes d'animation, et je vais entendre là, c'est, Netflix, pour moi, c'est vraiment, ils sont en animation, c'est les meilleurs, parce que, d'une part, on a les séries, non seulement séries créées, qu'on parle de BoJack, qu'on parle de Big Mouth, mais même, du coup, du côté, oriental, puisque t'as Devil May Cry Baby, enfin, il y a vraiment une proposition en animation sur Netflix qui est folle. Là d'ailleurs, bah, ils ont sorti la production de David Fincher, Love, Dead and Robots. Mais à la fois dans leur création, ils sont très très bons, et en même temps dans ce qu'ils achètent, ils ont le nez hyper fin. Bon, je pense à Rick et Morty, je pense à chez nous d'ailleurs la série française The Last Man. Dans les séries qu'ils achètent et dans les productions qu'ils font, honnêtement, c'est des voilà. Chez les Japonais, ils ont acheté Cowboy Bebop, qui est la meilleure série d'animation japonaise. Enfin, si on aime l'animation, si on aime les séries d'animation, Netflix, c'est un vivier incroyable. Et voilà.
D'ailleurs, je dois les remercier parce que j'ai vu Les Enfants de la Baleine grâce à eux, et franchement, ça valait le coup.
Et Castlevania, c'était nul, non?
Non, bah, franchement, c'est un parti pris, et bah, c'est peut-être la meilleure adaptation, d'un jeu vidéo qu'on ait pu avoir. Après elle prend son temps, on va pas se le cacher, elle prend son temps alors qu'il y a pas beaucoup d'épisodes, mais la direction artistique et le respect du matériau d'origine, tu peux pas nier que les mecs derrière, ils savent ce qu'ils font.
Ils connaissent, c'est bien.
Donc non, c'est pour le coup, moi je trouve que je peux avoir des séries d'animation que je n'ai pas aimées sur Netflix. Mais globalement, ça reste des infimes, c'est des cas rarissimes au final. Parce que moi, les plus grosses claques que j'ai prises en animation ces dernières années, elles sont sur Netflix ou elles ont été achetées par Netflix.
Oui, c'est vrai que moi, Rick et Morty et BoJack, c'était sur Netflix aussi, maintenant que j'y pense, finalement.
En termes d'animation japonaise, regardez Devil May Cry Baby. Enfin, là, quand on parle de séries pour adultes, là, pour le coup, Devil May Cry Baby.
Mais c'est quand même très bizarre, hein. Moi, j'ai eu du mal, mais j'ai regardé, mais c'était particulier quand même.
C'est particulier en termes. Mais ça qui est bien aussi, c'est que pour le coup, ils ont, même en termes d'animation pure et dure, ils ont vraiment de tout. Tu peux vraiment passer d'une série à une autre avec une animation totalement différente. Mais moi aussi, j'étais un peu comme toi, j'ai eu du mal à rentrer dans Devil May Cry Baby par rapport au graphisme. Mais une fois que tu rentres dedans, mais t'es pris au trip et t'en sors, t'es pas bien. Honnêtement, c'est peut-être la série de ces dernières années qui m'a mis pas le plus le malaise.
Mais moi qui suis pas très adepte de l'animation japonaise, est-ce qu'ils sont... Enfin, tu dis qu'il y a des animations différentes, mais est-ce que c'est un peu comme on va dire, tu vois, Dragon Ball, où tu restes pendant 20 ans sur un mec qui bouge une, qui bouge la bouche et qui, pendant 10 secondes, tu vois, c'est
alors,
un seul mouvement.
Ça dépend vraiment de la série, pour le coup.
Ça dépend vraiment de la série, parce que si tu regardes, là, je suppose que tu parles du Dragon Ball d'origine qu'on regardait au Club Dorothée.
Tous les Dragon Ball Z. Tous les Dragon Ball Z, super. Pour moi, c'est, voilà, tu restes, t'as une scène avec un seul mouvement, tu vois, et je pense que l'animation japonaise se base là-dessus, principalement.
Oui et non, parce que bah moi, pour moi, enfin là où tu vois les Simpsons, ils font pareil aussi. Enfin, j'ai pas ressenti autant que toi ce problème, parce que bon, Dragon Ball, je me souviens qu'évidemment ils rallongeaient vachement les épisodes. Enfin, ça restait un classique. Mais tu vois, de mémoire, je sais que par exemple Cowboy Bebop, je sais qu'ils peuvent le faire avec voilà, tu vois juste les personnages discuter au moment des lèvres. Mais en fait, ça raconte tellement de choses dans cette scène-là. Tu vois qu'au final, tu...
Ah ouais, mais faut que ça suive aussi. C'est pour ça que ça, je suis pas très attiré par l'animation japonaise. Je trouve que c'est très minimaliste au niveau de l'animation.
Oui, pour moi, ça dépend vraiment de la série, mais...
Ben, regarde Devilman Crybaby, parce que c'est pas très minimaliste.
Ah ouais, c'est pas très minimaliste. Et puis, c'est surtout que, enfin, honnêtement, en termes de... Je trouve que les Japonais ont été, en termes de séries d'animation, justement, ont été ils sont tout de suite rentrés dans des séries beaucoup plus adultes. On l'a vu avec le Club Dorothée. Enfin, je veux dire, regardez les dessins animés que tu regardais au Club Dorothée, même censuré, quel ne survivant censuré, ça restait quel ne survivant. C'était pas, voilà, quoi. Et je trouve qu'ils ont été, ils vont très vite dans les côtés, matures de la chose. Et moi, je sais qu'honnêtement, si vous voulez voir une excellente série, mais court, mais regardez Cowboy Bebop. Ça, c'est tous les auteurs, que ce soit tous les auteurs, même les réalisateurs, même réputés, ils sont tous d'accord pour dire que Cowboy Bebop est un monument. Et on parlait d'animation, t'as des séries, t'as aussi des films. Netflix, regardez Akira, bordel, ils ont Akira qui est un monument d'animation japonais. Guillermo del Toro s'en est largement inspiré aussi. Enfin, c'est honnêtement l'animation sur Netflix, voilà, vous avez à faire, quoi.
Si très je bien. Peux rajouter un truc là-dessus, parce que pour le coup c'est très important, je trouve que Netflix fait énormément pour l'animation, que ce soit série de tout bord, hein, du monde entier. Pour le coup, les autres plateformes, c'est la catastrophe, quoi. Je trouve que c'est pris par-dessus la jambe. Alors Amazon nous propose des séries pour enfants qui sont, pour le coup, ce qu'on disait au début, des séries vraiment pour les enfants, juste pour faire du babysitting, hein, voilà. Donc ça n'a strictement aucun intérêt, en plus c'est moche. Que ce soit Hulu, je sais pas si... Non, je crois que même la prochaine plateforme de Apple, il y a aucun projet d'animation. Il faut que tout le monde se dise que l'animation est quelque chose de vital. Enfin, c'est très important, quoi. Si en partie je regarde des trucs de, si j'avais pris Netflix au début, c'était aussi pour l'animation de Netflix, quoi. C'est un truc important, et je trouve que c'est un peu pris par la jambe, enfin, au-dessus de la jambe par les autres plateformes ou les autres chaînes, hein. Et c'est pas cool, je trouve.
Ok. Ils le prennent toujours comme, en fait, c'est tout simplement, ils le prennent toujours comme un sous-genre, en fait, en façon.
Voilà. C'est ça.
Comme tu dis, c'est un genre de babysitting, alors que non, ça, l'animation peut raconter énormément de choses, et les séries actuelles nous le prouvent.
Très bien. Bon, bah c'était l'aparté Netflix et l'appel désespéré aux producteurs s'ils nous entendent. Je vous propose maintenant de clore cette émission, tout simplement. J'espère qu'elle aura pu à chacun et à chacune apporter des pistes de réflexion ou au moins un peu de divertissement, parce que c'est aussi fait pour ça. Merci Tom, Alain, Stéphane.
Tu demandes même pas notre top 3 ou les conneries comme ça.
Oh bah c'était pas prévu, mais si tu veux donner un top 3,
j'en ai pas cité certaines, alors ça me fait un peu mal.
Alors si vous voulez citer un top 3, si vous avez préparé les top 3, allez-y, hein, vous dérangez pas.
Moi j'ai rien préparé. je citerai Futurama, qui est pour moi supérieur aux Simpsons. Bon, pas toutes les saisons évidemment, mais Futurama c'était vraiment quelque chose. Gravity Falls qui est et Rick and Morty, qui pour moi ça a été les deux séries de ces dernières années qui m'ont tellement différent, mais ça procure tellement de choses aussi. Une série que j'aimerais beaucoup retrouver, ça s'appelait Home Movies, c'était diffusé sur Arte il y a 20 ans, c'était dessiné, mais c'était crade, tu voyais, tu sais, les mouvements des traits, genre comme si le dessin n'était pas pareil, quoi. C'était dégueulasse, c'était genre des petits jeunes qui faisaient des films chez eux, le doublage était génial, français, et c'est introuvable, surtout en français. Et donc voilà, Home Movies, et si quelqu'un l'a, bah qu'il me le donne.
Voilà. Voilà, si vous voulez faire un cadeau à toi.
Et Family Dog, qui était de Tim Burton, qui a fait une petite série sur l'histoire d'un chien, c'était très drôle. Voilà.
Ok, très bien. Bon, bah, les autres, vous voulez donner votre petit taux de 3 pendant que vous y êtes, ou, si c'est pas préparé, c'est pas la
J'en ai donné 5, alors allez-y.
Voilà, bah, faites-vous plaisir. Bah, je vais faire si, voilà, citez ce que vous voulez.
Moi, je vais faire comme Tom, je vais reciter Gravity Falls parce que c'est juste merveilleux. Voilà, à tout point de vue. Je voudrais le duo Avatar The Legend of Korra, juste pour les rementionner parce que c'est.
Pareil.
C'est juste dingue et c'est.
J'ai une question justement. Est-ce que c'est pareil qu'une série, tu vois, je veux dire. Moi, je cherche des dessins animés qui me disent que c'est comme une série, tu vois, où il y a une histoire, il y a un fil rouge, et est-ce qu'il y a des
trucs,
saisons où il y a une histoire aussi.
Si, mais tu peux te jeter
dedans. Bojack, c'est vraiment comme ça aussi. Hein.
On m'a dit qu'Avatar et Korra, ouais, c'était.
Alors, Avatar, c'est un peu plus pour les enfants que Korra, qui est un peu plus adulte et ado, adulte, tu vois, jeune adulte. Mais non, tu peux te jeter dedans, et tu vas nous remercier d'ailleurs. Bon, après, il y a Bojack, mais bon, ça, j'avais déjà crié mon amour, déjà.
Bien sûr. Ouais.
Et je dois avouer que je me suis lancé de quand la plateforme DC s'est, enfin bon, pas chez nous, mais enfin s'est lancée, qu'ils ont ramené à la vie Young Justice. Je me suis lancé dans Young Justice et franchement, ça aide la gueule. Et j'ai une petite pensée pour Steven Universe. Voilà.
Là, justement, je me dis qui va citer ça.
Bah c'est moi.
C'est comme Adventure Time, personne n'a
cité. Ouais, ou comme de Star Butterfly aussi si tu veux.
Non mais Adventure Time c'est genre culte pour plein de gens.
Moi j'ai jamais trop accroché personnellement. Mais il aurait fallu que j'insiste un peu plus, mais j'avais pas trop le temps. Voilà.
Moi je vais pas vous citer les classiques qu'il faut absolument avoir vu, hein. Donc évidemment Bojack, Cowboy Bebop, enfin voilà des séries d'animation Batman des années 90, hein. Ouais. C'est des classiques. Par contre en série voilà évidemment que peut-être un peu plus un peu moins populaire et moins connu, évidemment, donc on a Devil May Cry Baby, Final Space, voilà, qui a été aussi qui est aussi du coup disponible sur Netflix maintenant. Et qui est une série qui ne paye pas de mine comme ça et qui, mine de rien, monte en puissance, ça c'est vraiment assez dingue. Puis voilà, après honnêtement, encore une fois, hein, si vous avez Netflix, il y a vraiment à boire et à manger et on en redemande. Il y a vraiment. Ouais. Voilà.
Bon, moi je vais pas apprendre grand chose aux auditeurs, puisqu'à mon avis, ils ont vu tout ce que j'ai vu. Hein.
Pokémon, tu aimes
Pokémon absolument. Yu-Gi-Oh aussi, absolument.
Digimon.
Toutes ces séries classiques. Ainsi que Bob l'éponge, bien sûr, sont à regarder. Mais non, sinon, voilà, ça a déjà été cité. Mais Rick et Morty et Bojack, évidemment, qui surtout, j'adore Rick et Morty, mais surtout Bojack, parce que Bojack, pour le coup, ce dont tu parlais, Tom, tout à l'heure, c'est vraiment une série. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait série, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc que tu regardes comme tu regarderais, j'en sais rien. Je laisse, prenez l'exemple que vous voulez. Et sinon, ouais, voilà, le classique South Park, les Simpsons, voilà, toutes ces choses-là, évidemment, c'est très bien et ça reste d'actualité, surtout South Park.
Mais on a beau dire Pokémon, mais j'ai jamais vu un Pokémon, j'ai pas grandi avec, je suis un peu trop vieux, mais j'ai revu le tout premier épisode, enfin j'ai même vu pour la première fois le premier épisode, je me dis mais je comprends pourquoi ça a marché, c'est tellement
tu sens
qu'il y a un gros univers et tu sens qu'ils savent déjà où est-ce qu'ils vont, quoi.
Ouais, absolument, tu sens que c'est très riche ouais, absolument.
J'avais même enregistré le générique sur cassette. Donc c'est pour ça.
C'est vrai, moi quand j'étais petit, c'était Chevalier du Zodiac et Dragon Ball. Et tu savais qu'il y avait un univers tellement vaste. D'ailleurs, qu'ils n'ont pas trop utilisé finalement dans Dragon Ball, quoi. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, alors qu'il y a tellement de choses.
Netflix n'a pas fait un remake de Les Chevaliers du Zodiac ?
Ils vont en faire un, mais tu te tais, on n'en parlera pas. Merci.
D'accord.
Voilà, oui, on en débattra pour une prochaine émission. Merci Tom, Alain, Stéphane d'avoir participé à ce beau débat. Et on donne rendez-vous très vite à nos auditeurs pour la prochaine émission. Bonne semaine à tous.
Salut.